Chapitre 1. Le lion sur la colline. La roue du temps tourne, et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Puis les légendes se métamorphosent en mythes qui sombrent eux-mêmes dans l'oubli, longtemps avant la renaissance de l'âge qui leur donna le jour. Au cœur d'un âge nommé le troisième par certains, une ère encore à venir et depuis longtemps révolue, un vent se mit à souffler dans les collines du Kérien couvertes de végétation roussie. Sans être le début, car il n'y a ni commencement ni fin à la rotation de la roue du temps, ce vent était un début. Soufflant vers l'ouest, ce vent balayait des villages et des fermes abandonnées, la plupart n'étant plus que des ruines carbonisées. Car la guerre avait ravagé le Kérien. La guerre classique, bien sûr, contre des étrangers, mais aussi la guerre civile. L'invasion et le chaos. Et maintenant que c'était terminé, en supposant que ça le fût vraiment, seuls de très rares téméraires revenaient vers leur foyer dévasté. Alors que ce vent ne charriait aucune humidité, le soleil s'acharnait à détruire le peu qu'il en restait dans le pays. À l'endroit où une petite cité, Myron, faisait face à Haringill, une ville bien plus grande, chacune se dressant sur une berge du fleuve Erinin, ce vent traversait le cours d'eau pour pénétrer dans le royaume d'Andorre. Les deux agglomérations cuisaient au soleil. Et même si davantage de prières pour qu'il pleuve montaient d'Haringill, où les réfugiés du Kérien se pressaient comme des poissons dans un aquarium, les soldats cantonnés autour de Myron s'adressaient eux aussi au Créateur, souvent d'une voix avinée et plus rarement avec une sincère ferveur. À cette période de l'année, l'hiver aurait déjà dû étendre ses tentacules sur la région, les premières neiges étant depuis beau temps de l'histoire ancienne. Alors qu'il suait à grosses gouttes, les gens s'inquiétaient de cette anomalie climatique, même si fort peu d'entre eux osaient énoncer leurs craintes à voix haute. Soufflant toujours vers l'ouest, ce vent agitait les feuilles desséchées et jaunies des arbres et ridait la surface des cours d'eau qui ruisselaient encore faiblement au centre de leur lit de boue durcie. En Andorre, on ne trouvait pas de bourg calciné, mais les villageois lorgnaient nerveusement le soleil boursouflé et les paysans préféraient détourner le regard des champs qui n'avaient, et pour cause, produit aucune récolte en automne. Continuant sa route, ce vent soufflait au-dessus de Kaemlyn, et, au cœur de la cité intérieure bâtie par les Augiers, faisait onduler les deux étendards qui dominaient le palais royal. Le premier, rouge sang, arborait l'image d'un disque divisé par une ligne sinueuse, une moitié noire aussi mate que l'autre d'un blanc parfait pouvait être brillante. Le second étendard, d'un blanc immaculé sur son écrin de ciel bleu, offrait l'image d'une étrange créature reptilienne, dotée de quatre pattes et d'une crinière dorée. Avec ses yeux jaunes et ses écailles écarlates et or, ce monstre de beauté semblait chevaucher le vent. Lequel des deux étendards inspirait le plus de crainte? Une question difficile, car parfois, l'espoir pouvait faire vibrer une poitrine pourtant oppressée par la peur. L'espoir du salut et la peur de la destruction, les deux venant de la même source. Kaemlyn, disait-on, était la deuxième plus belle cité du monde. Et ce n'était pas seulement l'opinion des Andoriens. D'ailleurs, ceux-ci la nommaient le plus souvent en premier, déclassant la glorieuse Tarvalon. Alors que de grandes tours rondes se dressaient à intervalles réguliers le long du mur d'enceinte de pierres grises veinées d'argent et de blanc, d'autres tours, encore plus hautes, s'élevaient à l'intérieur, côtoyant des dômes ivoire et or qui brillaient intensément sous le soleil impitoyable. Construite sur une série de collines, la ville était en quelque sorte couronnée par la cité intérieure. Protégée par son mur d'enceinte blanc, cet ultime sanctuaire abritait son propre trésor de tours et de dômes, qui scintillait comme une mosaïque écarlate, or et blanc. On eût dit qu'il veillait sur la nouvelle cité, ainsi nommée parce qu'elle avait quand même bien moins de 2000 ans d'âge. Alors que la cité intérieure était le noyau de Kaemlyn, et pas seulement, loin de là, parce qu'elle se dressait en son centre, le palais royal en était le cœur palpitant. Tout droit sorti des récits d'un trou vert, ce feu d'artifice de minarets blancs, de dômes dorés et de sculptures fines comme de la dentelle avait effectivement tout d'un cœur. Mais désormais, il battait à l'ombre des deux étendards. Torse nu, en équilibre sur la pointe des pieds, Rand n'avait pour l'heure pas le moins du monde conscience de se trouver dans une cour intérieure au sol de dalles blanches de ce fameux palais. Pareillement, il avait oublié la présence des spectateurs massés entre les colonnes qui entouraient ce qui n'était plus pour lui qu'un terrain d'exercice. Les cheveux collés sur le crâne par la sueur, la poitrine également lustrée de transpiration, il sentait la douleur monter de sa blessure jamais vraiment guérie sur le flanc, mais il refusait de lui accorder la moindre importance. Sur chacun de ses avant-bras s'enroulait une créature en tout point semblable à celle de l'étendard. des dragons, comme les appelaient les Aiel, son nom étant repris par de plus en plus de gens. Très vaguement, Rand avait conscience du héron marqué au fer dans chacune de ses paumes. Mais uniquement parce qu'il en sentait le relief alors qu'il serrait la longue poignée de son épée d'entraînement en bois. Ne faisant qu'un avec son arme, il passait instinctivement d'une figure à une autre, le lion sur la colline devenant l'arc de la lune, puis la tour au matin. Torse nu comme lui, également en sueur, cinq hommes l'encerclaient, tentant d'esquiver ses assauts et de contre-attaquer. Et c'était eux qui mobilisaient toutes ses perceptions. Des escrimeurs expérimentés au trait dur, les meilleurs qu'il avait pu trouver depuis le départ de l'âne. Se battre d'instinct, comme le champion le lui avait enseigné. Ne faire qu'un avec sa lame et avec ses cinq adversaires. Soudain, Rand fonça en avant, et les hommes qui le pressaient de plus en plus durent se déplacer très vite pour le garder au centre de leur cercle. À l'instant où cet équilibre géométrique sembla cependant sur le point de se rompre, parce que deux des cinq escrimeurs au moins esquissaient un mouvement qui tendait à le briser, Rand fit demi-tour à la volée et fonça dans la direction opposée. Ses cinq opposants tentèrent de réagir, mais il était trop tard. Dans un vacarme retentissant, le jeune homme bloqua une lame d'entraînement avec la sienne, une série de lattes de bois attachées ensemble, et dans le même mouvement, il propulsa son pied droit dans le ventre d'un autre adversaire. Sonné, l'homme aux cheveux grisonnants se plia en deux. Lame contre lame, Rand avança sur son adversaire, un colosse au nez cassé, et en profita pour décocher un autre coup de pied à sa première victime, qui s'écroula cette fois comme une masse. Nez cassé tenta de reculer pour dégager sa lame. Ce faisant, il libéra celle de Rand, qui lui fit décrire une spirale autour de l'arme de son ennemi, l'entrelac de la vigne, puis la lui abattit sur la poitrine avec assez de force pour le faire tomber à la renverse. Tout cela n'avait pris qu'une fraction de seconde. Pourtant, les trois escrimeurs encore valides approchaient déjà. Le premier, un petit type râblé et vif, montra que sa taille n'était pas un obstacle en sautant par-dessus nez cassé, alors qu'il ne s'était pas encore complètement étalé sur le sol. Opportuniste, Rand abattit son arme sur les tibias de sauteur, le faisant basculer en avant, puis il le frappa sur le dos et l'envoya rejoindre nez cassé sur les dalles. Plus que deux opposants, mais il s'agissait des meilleurs. Un grand type maigre dont la lame fendait l'air à la vitesse de la langue d'un serpent, et un costaud au crâne rasé qui ne commettait jamais l'ombre d'une faute technique. Bien entendu, les deux gaillards s'écartèrent l'un de l'autre afin de prendre leur proie en tenaille. Mais Rand ne perdit pas de temps. Conscient que crâne rasé aurait bientôt contourné les combattants gisant sur le sol, il engagea aussitôt le combat contre Maigrichon. Un escrimeur rapide et précis. Pour attirer l'élite, Rand n'avait pas lésiné sur l'or, et ça avait fonctionné. Pour un Andorien, Maigrichon était plutôt grand, même si Rand le dominait d'une bonne tête, mais dans un combat à l'épée, la taille ne comptait pas. En revanche, il arrivait que la force fasse la différence. Quand Rand se déchaîna contre lui, Maigrichon eut une expression pincée avant de reculer. Le sanglier qui dévale la colline eut aisément raison d'écarter la soie et se joua de l'éclair aux trois fourches. Après que l'épée d'entraînement se fut écrasée sur le côté de son cou, Maigrichon s'écroula comme les trois escrimeurs précédents. Aussitôt, Rand se jeta à terre, fit un roulé-boulé sur les dalles dures et exécuta la rivière longe la rive à la vitesse de l'éclair. Même s'il n'était pas très rapide, crâne rasé avait dû prévoir le coup, car il abattit sa lame sur la tête de Rand au moment même où ce dernier lui zébrait le ventre avec sa propre épée. Un instant, Rand chancela, des points noirs dansant devant ses yeux. Après avoir secoué la tête pour éclaircir sa vision, il s'appuya sur son arme pour se redresser. Haletant, crâne rasé le regarda avec méfiance.
« Paie-le !»
dit Rand. Aussitôt, la méfiance s'effaça du visage de crâne rasé. Comme si Rand n'avait pas promis une pièce de plus, par jour, à tout homme qui parviendrait à le toucher, et trois à tous ceux qui le vaincraient en tête à tête. Un moyen de s'assurer que personne ne retiendrait ses coups pour flatter le dragon réincarné. Rand ne demanda jamais le nom de ses partenaires, et si cet oubli les énervait, c'était tant mieux, puisqu'ils s'en battraient avec plus d'énergie. Un adversaire, même lors d'un entraînement, était là pour le pousser au-delà de ses limites, pas pour devenir son ami. De toute façon, ses amis maudiraient un jour le moment où ils l'avaient rencontré, si ce n'était pas déjà fait. Les autres escrimeurs remuaient déjà. En principe, un mort devait rester là où il était tombé afin de devenir un obstacle, comme l'aurait été un vrai cadavre. Mais alors qu'il avait quelque mal à tenir debout lui-même, Nez Cassé était obligé d'aider Cheveux Gris à se relever. Quant à Maigrichon, il tournait la tête à droite et à gauche en faisant la grimace. Plus d'entraînement pour aujourd'hui.
Paix-les tous.
Des applaudissements montèrent du public composé de seigneurs et de dames vêtus de leurs plus beaux atours, avec une inflation galopante de broderies et de galons, bien entendu. Rand fit la moue alors qu'il jetait au loin son épée. Tout ce beau monde avait fait des ronds de jambes devant Gébril à l'époque où Morgaz, la reine légitime, était prisonnière dans son propre palais. Mais pour le moment, Rand avait besoin de ses girouettes. « Prends les ronces à pleine main et tu te piqueras », songea-t-il. Enfin, il espérait que cette pensée venait de lui. Souline, la promise aux cheveux blancs qui dirigeait l'escorte personnelle de Rand, et toutes les fardas et ismailles de ce côté de la colonne vertébrale du monde, sortit de sa bourse une couronne d'or de Tarvalon et la lança avec une grimace qui tira sur la méchante balafre qui lui zébrait une joue. Les promises de la lance détestaient que Rand manie une épée, même en bois. Comme tous les aïels, elles exécraient ses armes. Crâne rasé rattrapa la pièce au vol et salua Souline d'un hochement de tête prudent. Avec les promises, tout le monde se montrait prudent. Vêtues d'ocre pour se confondre avec le paysage désolé de leur désert, elles avaient pour certaines ajouté un peu de vert à leur tenue, afin de s'adapter à ce qu'elles nommaient les terres mouillées. Malgré la sécheresse, ces régions, comparées à la tierce terre, restaient de fait humides. Avant de suivre Rand de l'autre côté du mur du dragon, très peu d'aïels avaient jamais vu un cours d'eau qui ne pouvait pas s'enjamber quasiment sans y penser. Chez eux, des querelles sanglantes avaient lieu à cause de mares de 2 ou 3 pas de large. Comme tous les guerriers aïels, et à l'instar des 20 autres promises présentes dans la cour, Souline avait les cheveux coupés courts, à l'exception d'une queue de cheval. Armée de 3 courtes lances, elle serrait une rondage dans sa main gauche et un coutelas pendait à sa ceinture. Suivant l'exemple de tous les combattants aïels, même ceux de l'âge de Jalani, une promise de 16 ans encore joufflue comme une fillette, Souline maniait toutes ses armes à la perfection, et elle en faisait usage à la moindre provocation. En tout cas, selon la façon de voir des habitants des terres mouillées. À part leur chef, les autres promises surveillaient tout le monde, que ce soit dans la cour, au milieu des colonnes, ou sur le balcon qui en faisait le tour. Certaines avaient encoché une flèche sur leur arc de corne, d'autres projectiles attendant dans le carquois qu'elles portaient sur une hanche. À leur manière, parfois assez particulière, les promises de la lance étaient garantes de l'honneur du Karakarn. Pour Rand, elles étaient toutes prêtes à donner leur vie. Une idée qui retournait l'estomac du jeune homme. Souline continua à distribuer des couronnes. Rand adorait payer ses dettes en monnaie de Tarvalon, en lançant une deuxième à crâne rasé, puis une seule à chacun des 4 autres escrimeurs. Au moins autant que des épées, les aïels se défiaient de presque tous les habitants des terres mouillées. Et en général, de toute personne qui n'était pas née et n'avait pas grandi parmi eux. Bien qu'il eût du sang aïel, Rand aurait dû entrer dans cette catégorie. Mais il y avait les dragons sur ses avant-bras. Un seul, gagné au péril de sa vie, permettait d'identifier un chef de tribu. 2, c'était la marque du Karakarn, le chef de tous les chefs. Celui qui vient avec l'aube. Et les promises avaient d'autres raisons encore de l'estimer. Après avoir récupéré leurs épées de bois, leurs chemises et leurs manteaux, les 5 hommes saluèrent Rand.
« Demain !»
leur lança le jeune homme tandis qu'il se retirait déjà.
« Très tôt !»
Alors que les escrimeurs sortaient, les nobles jaillirent de la colonnade comme une marée de soie colorée et entourèrent Rand, certains se tamponnant le visage avec un mouchoir de dentelle tant ils crevaient de chaud. Rien que de les voir, Rand sentit la bile lui remonter dans la gorge. Ces flèches de tout bois, où laissent les ténèbres s'abattre sur le monde. Le leitmotiv de Moiraine, formulé diversement selon les circonstances quand elle était encore à ses côtés. Pourtant, Rand préférait encore la franche hostilité des Kyrieniens ou des Théariens à l'hypocrisie de ces Andoriens. Chez eux, il n'y avait décidément rien de franc, même si on cherchait longtemps.
« Vous avez été merveilleux !»
souffla Arimila en posant une main sur le bras de Rand.
Si fort, si rapide.
Ses grands yeux marrons, plus admiratifs encore qu'à l'accoutumée, cet idiote semblait croire dur comme fer qu'il était sensible à ses charmes. Sa robe verte, brodée de feuilles de vigne argentées, était audacieusement coupée, selon les critères andoriens. En d'autres termes, elle dévoilait l'ombre de l'ombre d'un décolleté. Plutôt jolie, Arimila avait cependant largement l'âge d'être la mère de Rand. Parmi les dames, aucune n'était plus jeune, certaines étant même plus vieilles. Mais ça ne les empêchait pas de papillonner autour de lui.
« C'était extraordinaire, Seigneur Dragon !»
dit Elenia en poussant quasiment sa rivale du coude. Sur ses traits de prédatrice, le sourire d'Elenia semblait des plus étranges. Selon les rumeurs, c'était une mégère. Mais elle ne le montrait pas quand Rand était dans les parages, bien entendu.
« Le royaume d'Andorre n'a jamais connu un escrimeur tel que vous. Même Souran Maraveil, le plus grand général d'Arthur El de Faucon et l'époux d'Ishara, la première femme qui s'assit sur le trône du lion, perdit la vie lorsqu'il dut affronter 4 adversaires seulement. Des tueurs à gages, durant la 23e année de la guerre des Cent Années. Cela dit, il les abattit quand même tous les 4. »
Elenia ne ratait jamais une occasion de mettre en valeur ses connaissances historiques, surtout sur des périodes dont on ne savait pas grand-chose, comme celle qui avait vu éclater l'empire d'Arthur après sa mort. Au moins, elle ne crut pas bon d'ajouter la longue liste de fantaisies qui justifiait ses prétentions au trône du lion.
« Juste un peu de malchance, à la fin. »
fit Jarid, le mari d'Elenia. Costaud, le teint sombre pour un andorien, il arborait sur les poignets et le col de sa veste rouge les motifs géométriques et les sangliers dorés, symboles de la maison Sarande. Également vêtue de rouge, Elenia avait choisi pour ornement les célèbres lions blancs d'Andorre. Rand se demanda si elle le pensait assez ignare pour ne pas capter le message. Si Jarid était la haute chair de sa maison, toute l'ambition et toute l'énergie venaient d'elle.
« Fabuleuse démonstration, Seigneur Dragon, »
déclara Karind. D'une coupe aussi austère que ses traits, sa robe gris brillant, ornée de galons d'argent sur les manches et l'ourlet, s'harmonisait presque parfaitement avec les mèches argentées de sa chevelure noire.
« Vous êtes sûrement le plus grand escrimeur du monde. »
Malgré ses compliments, le regard de cette femme bâtie tout en puissance s'abattait sur ses interlocuteurs comme un marteau. Avec un minimum d'intelligence pour soutenir sa bestiale vitalité, elle aurait été des plus dangereuses. Mince et d'une pâle beauté, Naehan était dotée de grands yeux bleus et de cheveux bruns brillants. Hélas pour elle, le rictus méprisant qu'elle avait adressé aux 5 escrimeurs avant leur départ ne s'effaçait presque jamais de ses lèvres.
« Je pense qu'ils avaient tout préparé afin que l'un d'eux réussisse à vous toucher. Ils se partageront la prime. »
Contrairement à Elenia, la haute chair de la maison Arone, comme en attestaient les 3 clés d'argent qui décoraient les manches de sa robe bleue, ne mentionnait jamais ses ambitions royales lorsque Rand était dans les parages. Officiellement, elle se prétendait satisfaite de diriger une très ancienne maison. Une lionne qui voulait faire croire qu'elle aimait jouer les chattes domestiques.
« Puis-je toujours escompter que mes ennemis ne s'uniront pas contre moi ?»
demanda Rand. Naehan ne put retenir une grimace. Loin d'être stupide, elle semblait penser que tous ceux qui s'opposaient à elle devaient se soumettre à sa volonté dès qu'elle les affrontait. Et quand ils s'en abstenaient, elle prenait ça pour un affront personnel. Ignorant les nobles, Enaïla, une des promises, tendit à Rand une serviette blanche afin qu'il éponge sa sueur. La chevelure d'un roux flamboyant, elle était assez petite, en tout cas pour une aïelle, et s'agaçait ouvertement que quelques-unes de ces femmes des terres mouillées soient nettement plus grandes qu'elle. De fait, presque toutes les promises auraient pu regarder droit dans les yeux la majorité des hommes présents dans la cour. Les andoriennes s'efforcèrent d'ignorer également l'aïelle, mais leur manque de naturel gâcha leur effet. Et Naïla, en revanche, s'éloigna en se comportant comme si elles avaient été invisibles. Le silence, hélas, ne dura pas longtemps.
« Le seigneur dragon est un sage, »
dit le seigneur Lyr en esquissant une révérence, le front plissé. Haute chair de la maison Barine, l'homme vêtu d'une veste jaune au galon d'or était fin comme une lame et probablement tout aussi solide. Mais il se montrait bien trop courtois, mielleux aurait encore mieux convenu, pour être honnête. À part d'occasionnels plissements de front, dont il ne semblait pas avoir conscience, rien ne venait jamais troubler cette surface trompeusement lisse. Cela dit, il n'était pas le seul à considérer Rand avec une certaine perplexité. Tous, ici, avaient tendance à regarder le dragon réincarné comme s'ils n'en croyaient pas leurs yeux.
« Les ennemis d'un homme finissent toujours par coopérer. Le grand art, c'est de les identifier avant qu'ils aient eu le temps de s'unir. »
D'autres louanges visant la sagesse de Rand retentirent dans la cour. Sortant de la bouche du seigneur Henren, un chauve massif au regard dur, de la dame Carlis aux boucles grises, une femme au visage ouvert et à l'esprit tordu, de la replète dame d'Aerila, encline à glousser pour un oui ou pour un non, du seigneur Elégar, si nerveux qu'il pinçait en permanence ses lèvres déjà très fines, et d'une dizaine d'autres nobles mineurs, qui avaient tenu leur langue pendant que s'exprimait le haut du panier de la cour. Tous ces nobliaux se turent dès qu'Elenia ouvra de nouveau la bouche.
Il n'est jamais facile d'identifier ses ennemis avant qu'ils se fassent connaître. Et à ce moment-là, il est souvent trop tard.
Jared approuva sagement ses propos.
« Comme je le dis toujours, »
fit Nayan,
« ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. C'est une règle très utile, comme je m'en suis aperçu avec le temps. Quiconque ne marche pas à mes côtés peut traîner derrière moi avec l'intention de m'enfoncer un couteau entre les omoplates. »
Ce n'était pas la première fois que ces gens tentaient d'affirmer leur position en lançant des insinuations sur des seigneurs ou des dames qui n'embrassaient pas leur cause. Rand aurait aimé pouvoir faire cesser ses manœuvres sans être obligé de leur ordonner d'arrêter. Quand il s'essayait au grand jeu, ces Andoriens n'arrivaient pas à la cheville des Kyrieniens, voire même des Théariens. De plus, ils étaient hautement agaçants. Mais Rand n'aurait surtout pas voulu leur donner l'idée de s'améliorer. Bizarrement, le salut vint du seigneur Nassin, la haute chair aux cheveux blancs de la maison Kairen.
« Un nouveau Jearom, »
dit Nassin avec un sourire obséquieux qui semblait déplacé sur son visage austère. Cette sortie lui valut des regards courroucés, y compris de la part des nobliaux, avant qu'ils se ressaisissent. Depuis l'arrivée de Rand à Kemlin, marquée par de terribles événements, Nassin était très nettement perturbé. Au lieu de l'étoile et de l'épée symbolisant sa maison, les revers de sa veste bleue étaient ornés de fleurs, de larmes de lune et de lacs d'amour. Comme un jeune paysan qui fait sa cour, il lui arrivait de porter une fleur dans les cheveux. Malgré tout, la maison Kairen était trop puissante pour que Jared ou Nayan puissent écarter Nassin de la cour.
« Votre façon de manier l'épée est impressionnante, seigneur dragon, »
dit le seigneur lunatique en inclinant la tête.
« Vous êtes un nouveau Jearom. »
« Pourquoi ?»
lança soudain une voix, ce mot retentissant dans toute la cour. Les Andoriens se rembrunirent avec une belle unanimité. Avec ses yeux inclinés presque noirs, son nez crochu et sa moustache triée de gris au point incliné vers le bas, Davram Bachéré ne ressemblait pas du tout à un Andorien. Un peu plus grand qu'Enaïla, ce gaillard élancé portait une veste grise courte brodée de fils d'argent au poignet et sur les revers, et un pantalon large sur une paire de bottes au bord retourné à hauteur de ses genoux. Alors que les Andoriens étaient restés debout pour regarder Rand à l'œuvre, le maréchal du Saldaea avait fait transporter un fauteuil orné de dorures au milieu des colonnes. Il y était encore assis, une jambe passée au-dessus d'un des accoudoirs, la poignée de son épée, au quillon terminé par des anneaux, orientée de manière qu'il puisse la saisir sans peine. Alors que de la sueur lustrait son front en teint mat, il semblait s'en soucier aussi peu que de la brochette de noble andorien.
« Que voulez-vous dire ?»
demanda Rand.
« Pourquoi ces entraînements ?»
explicita Bachéré.
« Et contre 5 adversaires ? Personne n'en affronte autant. C'est absurde. Tôt ou tard, dans des mêlées de ce genre, vous finirez avec le crâne fracassé, même avec des épées en bois. Et tout ça pour rien.
Jearom est un jour venu au bout de 10 adversaires. »
lâcha Rand entre ses dents serrées. Se tortillant dans son fauteuil, Bachéré éclata de rire.
Vous pensez vivre assez longtemps pour devenir l'égal du plus grand escrimeur de l'histoire ?
Un murmure rageur monta des Andoriens, une indignation feinte, Rand l'aurait parié. Mais le maréchal l'ignora superbement.
« Après tout, vous êtes ce que vous êtes. »
Sans crier gare, Bachéré se détendit comme un ressort. Le couteau qu'il avait dégainé en se tortillant vola droit vers le cœur de Rand. Le jeune homme ne bougea pas un muscle. D'instinct, exactement comme il respirait, il se connecta au Saïdin, la moitié masculine de la source authentique. La souillure du ténébreux vint avec le pouvoir, immonde flot de pourriture, qui tenta de l'emporter à la manière d'un torrent. Rand résista, chevauchant cette déferlante comme un homme qui se tient en équilibre au sommet d'une montagne en train de s'écrouler. Canalisant un fin tissage d'air, il l'enroula autour du couteau, qui s'immobilisa à un peu plus d'un pied de sa poitrine. Dans son cocon de vide, coupé de toute émotion et à une distance respectable de ses propres pensées, Rand n'éprouva ni angoisse ni colère.
« Meurs !»
cria Jared. Sa lame au clair, il se rua sur Bachéré. Lyr, Henren et Légar et les autres seigneurs, même Nassin, bien qu'il parût prêt à la lâcher dans le même mouvement, dégainèrent leur épée et toutes les promises, voilées de noir en un clin d'œil, braquèrent leurs lances sur Bachéré. Avant de tuer, les aïels se voilaient toujours.
« Arrêtez !»
cria Rand. Tout ce petit monde lui obéit. Alors que les Andoriens ne cachèrent pas leur surprise, les promises restèrent simplement figées sur la pointe des pieds. Une jambe toujours posée sur le bras de son siège, Bachéré n'avait pas bronché, n'était qu'il s'était confortablement calé contre le dossier du fauteuil ornementé. Rand saisit le couteau à manche de corne immobilisé en plein vol, puis il se coupa de la source. même avec la souillure qui lui déchirait les entrailles et qui finirait un jour par le tuer, comme tout homme capable de canaliser, cette séparation était toujours un crève-cœur. Quand le Saïdine coulait en lui, sa vision et son ouïe étaient amplifiées. En un paradoxe qui le dépassait, lorsqu'il flottait dans son cocon de vide, comme coupé de ses émotions et de ses sensations physiques, tous ses sens étaient comme magnifiés. En conséquence, sans le Saïdine, il avait souvent l'impression de n'être qu'à moitié vivant. Hélas, s'il restait des traces de la souillure après qu'il l'eût canalisée, l'extase liée à cette expérience se dissipait totalement. Cette mortelle extase qui lui coûterait la vie s'il lui laissait gagner trop de terrain dans le combat impitoyable qui les opposait. Rand avança vers Bachéré en jonglant avec le couteau.
« Si j'avais été moins rapide d'une fraction de seconde, »
dit-il,
« je serais mort. Je pourrais vous tuer dans votre fauteuil, et aucune loi en Andorre ou n'importe où ailleurs ne me donnerait tort. »
Rand s'avisa qu'il s'apprêtait à exécuter le maréchal. Une colère froide avait remplacé le Saïdine. Rien ne pouvait justifier le comportement de Bachéré, même après quelques semaines passées à plus ou moins fraterniser. Le maréchal resta aussi calme que s'il était en train de se prélasser dans une cour de sa propre demeure.
« Ma femme n'aimerait pas ça. Et vous non plus, au bout du compte. Deira prendrait sans doute le commandement, et elle recommencerait à traquer Taïm. Elle n'approuve pas que j'ai accepté de me rallier à vous. »
Rand secoua la tête, le tranchant de sa colère un peu émoussé par la sérénité de son interlocuteur, et par ses propos. Apprendre que tous les nobles et presque tous les officiers parmi les 9000 cavaliers du Saldaéa avaient amené leur épouse s'était révélé une sacrée surprise. Comment pouvait-on exposer ainsi sa femme au danger? Rand n'aurait jamais agi ainsi, mais au Saldaéa, c'était une tradition, sauf quand l'armée entrait en campagne dans la flétrissure. Rand évita de regarder les promises. Des guerrières nées, certes, mais également des femmes. Pourtant, il avait juré de ne pas les tenir éloignées du danger, même au risque de leur vie. Cela dit, il n'avait jamais juré d'aimer cette idée, qui lui déchirait le cœur, et rien ne lui interdisait de tenir parole sans éprouver le moindre enthousiasme. Mais ces derniers temps, il avait appris à faire ce qui s'imposait, même quand il se détestait à cause de ça. Avec un soupir, il jeta au loin le couteau.
« Votre question, »
dit-il poliment.
« Pourquoi ?»« Parce que vous êtes ce que vous êtes, »
répondit Bachéré.
« Comme les hommes que vous rassemblez sont ce qu'ils sont, je suppose. »
Dans son dos, Rand entendit des piétinements nerveux. Si fort qu'ils essaient, les Andoriens ne parvenaient pas à cacher l'horreur que leur inspirait son amnistie.
« Vous pouvez réussir chaque fois ce que vous venez de faire avec mon couteau, »
continua Bachéré. Il reposa sa jambe par terre et se pencha en avant.
« Mais pour vous atteindre, un tueur devrait d'abord briser le cercle protecteur de vos aïeuls. » Et de mes cavaliers. Allons. Si un assassin parvient à approcher de vous, gageons que ce ne sera pas un être humain.
Il écarta les mains et se radossa à son siège.
Si vous entraînez à l'épée vous amuse, ne vous gênez pas. L'exercice ne fait jamais de mal à un homme, et il faut bien se divertir un peu. Mais ne vous faites pas ouvrir le crâne en deux. Trop de choses dépendent de vous, et je ne vois dans le coin aucune Aesedaï susceptible de vous guérir.
Bachéré sourit sous sa moustache.
S'il vous arrivait malheur, je crains que nos amis andoriens se montrent soudain bien moins hospitaliers avec mes hommes et moi.
S'ils avaient rengainé leurs lames, les seigneurs continuaient à foudroyer Bachéré du regard, et pas parce qu'il venait de passer à un cheveu de Tuirande. D'habitude, et bien qu'il fût un officier étranger présent sur leur sol avec son armée, il se gardait bien de manifester de l'hostilité au maréchal. À partir du moment où le dragon réincarné voulait qu'il soit là, ces gens se résignaient à sa présence, et ils auraient fait de même si c'était agi d'un myrdraal. Mais si Rand changeait d'avis, plus besoin de faire bonne figure. Ces vautours qui auraient été prêts à dévorer Morgaz avant qu'elle meure, n'hésiteraient pas à déchiqueter Bachéré s'ils en avaient l'occasion. Idem pour Rand, bien entendu. Comme il était impatient d'être débarrassé de cette engeance. La seule façon de vivre, c'est de mourir. La phrase avait comme explosé dans sa tête. On lui avait dit quelque chose comme ça un jour, dans des circonstances où il avait été obligé de le croire, mais cette pensée ne lui appartenait pas. « Je dois mourir. La mort. Voilà tout ce que je mérite. » Se détournant de Bachéré, Rand se prit la tête à deux mains. Le maréchal se leva d'un bond et saisit Rand par l'épaule, bien que celle-ci soit un bon demi-pied plus haut que le sommet de son crâne.
« Que vous arrive-t-il ? » Ce coup vous a pour de bon fracassé la tête ?
Je vais très bien.
Rand laissa retomber ses mains. Ce n'était jamais douloureux, mais avoir dans son esprit les pensées de quelqu'un d'autre faisait toujours un choc. Bachéry n'était pas le seul à avoir réagi. Toutes les promises le lorgnaient du coin de l'œil, tout particulièrement Enaïla et la blonde Somara, la plus grande du groupe. Quand elle ne serait plus de service, ces deux-là lui apporteraient sans doute quelque infusion bienfaisante, le foudroyant du regard jusqu'à ce qu'il ait enfin consenti à boire. Elenia, Naéan et les autres Andoriens fixaient Rand, le souffle court. Tirant sur le devant de leur veste ou de leur robe, tous devaient se demander, terrorisés, s'ils n'assistaient pas aux premières manifestations de la folie qui le guettait.
« Je vais bien !»
répéta-t-il plus fort. Seuls les promis se détendirent, et Naïla et Somara respirant un peu mieux. Les Aïels se fichaient comme d'une guigne du dragon réincarné. Pour eux, Rand était le Karakarn, destiné selon les prophéties à les unir et à les briser. Ils l'admettaient sans discuter, même si ça les inquiétait, et il en allait de même avec sa capacité de canaliser le pouvoir et tout ce qu'elle impliquait d'autre. Les autres peuples, ceux des terres mouillées, songea-t-il, ironique, lui donnaient du dragon réincarné sans jamais se demander ce que ça signifiait vraiment. Pour eux, il était la réincarnation de Lusterin Telamon, le dragon qui, plus de 3000 ans auparavant, avait fermé la brèche dans la prison du Ténébreux et mis fin à la guerre des ténèbres. Par la même occasion, ces événements avaient aussi mis un terme à l'âge des légendes. Mais lorsque la dernière contre-attaque du Ténébreux avait souillé le Saïdin, tous les hommes capables de canaliser avaient sombré dans la folie, à commencer par Lusterin et ses 100 compagnons. Les gens l'appelaient le dragon réincarné sans jamais se douter qu'il y avait probablement en lui une part de Lusterin au moins aussi démente, et peut-être plus, qu'à l'époque où il avait donné naissance à l'ère de la folie et provoqué la dislocation du monde. Lusterin. Aussi fou que les Aes Sedai mâles qui avaient altéré la face du monde au point qu'il en devienne méconnaissable. Le processus avait été très lent. Mais plus Rand en avait appris sur le pouvoir de l'unique, gagnant en puissance dans la maîtrise du Saïdin, plus la voix de Lusterin était devenue forte dans sa tête, le contraignant à lutter pour que les pensées d'un mort ne finissent pas par dominer les siennes. Entre autres raisons, ça expliquait son goût pour les exercices d'escrime. Quand il agissait d'instinct, sans penser, une sorte de barrière invisible l'aidait à rester plus aisément lui-même.
« Nous devons trouver une Aes Sedai,
Mamona Bachéry.
Si ces rumeurs sont vraies, que la lumière me brûle. Nous n'aurions jamais dû laisser partir celle que nous avions sous la main. »
Après que Rand et ses aïels se furent emparés de la capitale, beaucoup de gens avaient fui, le palais lui-même se vidant presque en 24 heures. Parmi ces fugitifs, il y avait des personnes que le jeune homme aurait aimé retrouver, parce qu'elles l'avaient aidé, mais tout avait disparu. Et ça continuait. Au nombre de ces désertions, on comptait celle d'une Aes Sedai si jeune que son visage n'avait pas encore pris la patine sans âge typique chez toutes les sœurs. L'ayant localisée dans une auberge, des hommes de Bachéry avaient signalé sa présence, mais dès qu'elle avait su qui était Rand, elle s'était enfuie en hurlant. Au propre, pas au figuré. Le jeune homme n'avait même jamais su le nom de son aja. Selon certaines rumeurs, une autre Aes Sedai était restée quelque part en ville, mais des centaines de bruits couraient à Kemlin, des milliers plus vraisemblablement. Tous aussi faux les uns que les autres. Inutile d'espérer que l'un d'eux conduise pour de bon à une Aes Sedai. Des éclaireurs à Yel avaient par ailleurs vu plusieurs sœurs passer à distance de Kemlin, avec l'air pressé des gens qui ont une destination urgente. Et aucune n'avait manifesté l'intention d'entrer dans une ville tombée sous la coupe du dragon réincarné.
« Le cas échéant, pourrais-je me fier à une Aes Sedai ?»
demanda Rand.
« Ce n'était qu'une migraine. Ma caboche n'est pas assez dure pour ne pas me faire mal quand on lui cogne dessus. »
Bachéry eut un ricanement assez fort pour faire onduler son épaisse moustache.
« Que votre crâne soit solide ou non, vous aurez tôt ou tard besoin de vous fier aux Aes Sedai. Sans elles, vous n'obtiendrez jamais le ralliement de toutes les nations, sauf à les conquérir les unes après les autres. Les peuples attendent ce signe-là, même s'ils entendent dire que vous avez accompli un tombereau de prophétie. Certains auront besoin que les Aes Sedai vous aient en quelque sorte estampillé. Je ne me déroberai pas s'il faut combattre, et vous le savez. Même si Aelron m'accepte en Amadicia, les capes blanches ne m'y accueilleront pas à bras ouverts. Et Samael n'abandonnera pas Liliane sans résistance.
Samael, Ravine, Mogadienne et... Non sans peine, Rand chassa cette pensée de son esprit. Ces intrusions étaient toujours inattendues, et les combattre ne se révélaient pas aisés. Entendant un bruit sourd, Rand jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Arimila gisait sur les dalles, et Karine s'était agenouillée près d'elle pour lui tirer la jupe sur les chevilles et lui frictionner les poignets. Et les gars titubaient comme s'ils risquaient lui aussi de tomber dans les pommes. De leur côté, Nassim et Elenia ne paraissaient guère plus vaillants. Les autres oscillaient entre teint blême et carrément verdâtre. La moindre mention des rejetés pouvait avoir cet effet, surtout depuis que Rand avait appris à ses gens que le seigneur Gabriel était en réalité Ravine. L'avait-il cru? Il ne l'aurait pas juré, mais cette simple possibilité suffisait à les faire défaillir. De plus, ils se demandaient pourquoi ils étaient encore vivants. Et pour être franc, si Rand avait pensé qu'ils étaient consciemment complices du rejeté... Non, s'ils étaient tous des suppôts des ténèbres, tu les utiliserais quand même. Parfois, ils se dégoûtaient tant qu'il aurait été pour de bon prêt à mourir. Au moins, ils disaient la vérité. Parce qu'elle redoutait que ça sème la panique, les Aes Sedai tentaient de cacher aux gens que les rejetés arpentaient le monde. Lui, il essayait de répandre la vérité. Si un vent de panique soufflait, il aurait le temps de retomber. Avec la façon de procéder des sœurs, la vérité et la panique risquaient d'arriver trop tard pour que les peuples s'en remettent. De plus, ils avaient le droit de savoir ce qui les attendait.
« Liliane ne tiendra pas longtemps, » dit Bachéré.
Rand regarda nerveusement autour de lui, mais le maréchal était un vétéran bien trop aguerri pour lâcher des informations quand les oreilles malvenues auraient pu les entendre. Non, il cherchait simplement à faire dériver la conversation sur un autre sujet que les rejetés. Cela dit, s'il les évoquait, eux ou toute autre chose, le rendait nerveux, il l'avait fort bien caché jusque-là.
« Liliane craquera comme une noix qui reçoit un coup de marteau. Avec Matt, vous avez imaginé un très bon plan. »
L'idée de départ était de Rand, mais Matt et Bachéré avaient fourni les milliers de détails qui la rendraient réalisable. Et Matt avait été encore plus productif que le maréchal.
« Un garçon intéressant, ce Matt Cotton, » souffla Bachéré.
« J'ai hâte de m'entretenir de nouveau avec lui. Il n'a jamais voulu me dire qui était son mentor. Agelmar Jagad ? J'ai entendu dire que vous étiez tous les deux allés au Chienard. »
Rand ne dit rien. Les secrets de Matt lui appartenaient, et de toute façon, il n'était pas bien sûr de les connaître.
« Il est bien jeune pour avoir étudié sous la coupe d'un maître, »
fit Bachéré en se lissant la moustache.
« Pas plus vieux que vous, n'est-ce pas ? A-t-il déniché une bibliothèque quelque part ? Je serais curieux de savoir quel livre il a lu. Vous devrez lui poser la question, »
dit Rand,
« parce que je n'en sais rien. »
Dans sa vie, Matt avait bien dû ouvrir un livre un jour ou l'autre, mais il n'avait rien d'un fou de lecture. Bachéré acquiesça pensivement. Quand Rand éludait ses questions, il n'était pas du genre à insister, en règle générale.
« La prochaine fois que vous ferez un saut à Kairien, pourquoi ne ramèneriez-vous pas la sœur verte qui s'y trouve ? Et Gwen Sedai ? J'ai entendu des Aiel parler d'elle. Il paraît qu'elle vient de votre village natal. Elle serait digne de confiance, non ? Et Gwen a d'autres devoirs. »
Rand sourit. Une sœur verte. Si Bachéré avait su... Somara approcha avec la chemise de Rand et sa veste rouge en laine andorienne décorée de dragons sur le col et de feuilles de laurier sur les revers et le long des manches. Très grande, même pour une Aiel, la promise faisait à peine quelques pouces de moins que lui. Comme les autres Aiel, elle avait abaissé son voile, mais son choufa dissimulait encore une bonne partie de son visage.
« Le Karakam va prendre froid, »
murmura-t-elle. Rand en doutait fort. Pour les Aiel, cette chaleur n'avait rien d'extraordinaire. Mais sans bouger, il transpirait presque autant qu'en s'entraînant. Il enfila pourtant sa chemise, sans la fermer, et mit également la veste. En public, Somara n'aurait probablement pas tenté de l'habiller de force, mais en agissant ainsi, il s'épargnerait un sermon, sans compter celui des Naïla, puis d'autres promises, avec l'inévitable infusion. Pour la majorité des Aiel, il était le Karakarn, et les promises ne faisaient pas exception à la règle. En public. En privé, avec ces femmes qui avaient choisi la lance plutôt que le mariage et un foyer, les choses se révélaient plus compliquées. Rand aurait pu y mettre le holà, enfin il le supposait, mais il leur devait de ne rien faire. Certaines de ces femmes étaient mortes pour lui, et d'autres tomberaient encore. Il avait juré que la lumière le brûle. Et s'il les laissait risquer leur vie, il ne devait pas les priver de certaines compensations. Cela dit, la chemise s'imbiba de sueur en un clin d'œil, et la veste ne tarda pas à suivre.
« Vous avez besoin des Aes Sedai, Altor. »
Rand espérait que Bachéré se montrait aussi opiniâtre au combat. Il en avait la réputation, certes, mais comment en être sûr ?«
Vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de les avoir contre vous. Et si elles ne croient pas vous avoir attaché quelques fils dans le dos, elles risquent de choisir cette option.
Ces femmes sont rusées. Aucun homme ne peut savoir ce qu'elles font ni pour quelles raisons elles le font. Et si je vous disais que des centaines d'Aes Sedai sont déjà prêtes à me soutenir ?
Conscient que les Andoriens tendaient l'oreille, Rand songea qu'il ne devrait pas trop en dire. De toute façon, il ne savait pas grand-chose, à part des exagérations sans doute, et des souhaits invérifiables. Quant aux centaines, il avait ses doutes, quoiqu'ait pu laisser entendre Egwene. Bachéré plissa les yeux.
« Si une délégation de la tour était en route, je le saurais. »
Il baissa la voix.
« La division ? Il y aurait vraiment un schisme à la tour ?»
Le maréchal semblait incapable de croire les mots qui sortaient de sa bouche. Tout le monde savait que Suan Sanche avait été renversé et calmé, puis exécuté selon certaines rumeurs. Pourtant, une scission à la tour continuait à paraître invraisemblable. 3000 ans durant, tel un monolithe, la tour blanche avait dominé les nations. Alors... Mais Bachéré était homme à envisager toutes les possibilités. Approchant de Rand, afin que les Andoriens ne l'entendent pas, il souffla.
« Ce sont sûrement les rebelles qui prévoient de vous soutenir. Avec elles, vous conclurez un meilleur accord, parce qu'elles auront besoin de vous. Plus encore que vous avez besoin d'elles. Mais des renégates, Aes Sedai ou non, auront moins de poids que la tour blanche, surtout vis-à-vis des dirigeants. Les peuples ne feront peut-être pas la différence. En revanche, les rois et les reines, ce sont quand même des Aes Sedai,
fit Rand, aussi serein que son interlocuteur.
Qui qu'elle soit.
Et où qu'elle soit. Des Aes Sedai, au service de tous. Mais le hall des serviteurs est détruit désormais. Détruit pour toujours. Ilyena, mon amour. Rand occulta impitoyablement les pensées de Loustérine. À l'occasion, elle lui avait été utile, lui fournissant des informations qui lui manquaient, mais elle devenait bien trop puissante. S'il y avait eu une Aes Sedai ici, une sœur jaune particulièrement experte en guérison, elle aurait peut-être pu... En ce monde, il n'y avait qu'une Aes Sedai en qui il ait eu confiance, et encore, très peu de temps avant qu'elle disparaisse. Et cette sœur, Moiraine, lui avait donné un conseil radical concernant toutes les femmes qui portaient la bague et le châle.
« Je ne me fierai jamais à une Aes Sedai, » dit-il. « J'utiliserai les sœurs, parce que j'ai besoin d'elles. Et que ce soit des renégates ou des loyalistes, je sais qu'elles tenteront de me manipuler, parce que c'est dans leur nature. Ma chérie, je ne leur ferai jamais confiance. »
Le maréchal acquiesça.
« Dans ce cas, servez-vous d'elles, si vous le pouvez. Mais souvenez-vous de ça. Personne ne s'écarte très longtemps du chemin que les Aes Sedai ont décidé. »
Il eut un rire sec.
À ma connaissance, Arthur El de Faucon est le premier et le seul homme à avoir réussi cet exploit. Que la lumière me brûle les yeux. Vous serez peut-être le deuxième.
Un martèlement de bottes annonça que quelqu'un venait de débouler dans la cour. Un des hommes de Bachéré, carré d'épaule et plus grand d'une bonne tête que son chef. Le nez aquilin, la moustache et la barbe noire luxuriante, il se déplaçait avec la relative maladresse d'un homme plus habitué à monter à cheval qu'à utiliser ses jambes. Une main sur la poignée de son épée, il s'inclina cependant avec une certaine grâce, devant Bachéré plus que devant Rand. Si le maréchal était loyal au dragon réincarné, Toumad Askan, c'était son nom, si Rand ne se trompait pas, suivait fidèlement le maréchal. Et Naïla et trois autres promises rivèrent les yeux sur le soldat. Dès qu'un nouvel habitant des Terres Mouillées approchait du Karakarn, leur niveau de vigilance augmentait d'un cran.
« Un homme s'est présenté aux portes du palais, »
annonça Toumad, mal à l'aise.
« Il dit, « Il s'agit de Mazrim Taïm, seigneur Bachéré.